Appendice établi par Christopher Tolkien. Depuis le point du récit où l'on voit Turin et ses hommes s'installer dans l'ancienne demeure des petits nains sur l'Amonrud, il n'existe aucune version à ce point détaillée jusqu'à ce que le Narn reprenne le voyage de Turin vers le nord après la chute de Nargothrond. À partir des nombreux plans, projets et notes, on peut cependant obtenir quelques aperçus allant plus loin que les évocations sommaires du Silmarillion et même de courts passages d'un récit qui peut s'inscrire dans le Narn. Un fragment isolé, décrivant la vie des hors-la-loi sur l'Amonrud dans les temps qui suivirent leur installation en ces lieux, parachève par exemple la description de Bar et Nanwedh. Voici ce fragment. Longtemps la vie des hors-la-loi fut telle qu'ils pouvaient la souhaiter. Ils avaient de la nourriture en suffisance, un bon abri, chaud et sec, et toute la place voulue à n'en savoir que faire, car ils découvrirent que les grottes pouvaient loger une centaine d'hommes et plus au besoin. Une autre salle, moins vaste, s'ouvrait au fond. Dans un coin, on avait aménagé un âtre et creusé dans le roc un conduit de fumée qui débouchait, par un orifice habilement camouflé, dans une crevasse à flanc de coteau. Et nombre d'autres chambres y avait-il, qui donnaient sur les salles communes ou sur la galerie qui les séparait, certaines servant de chambre à coucher et d'autres d'ateliers ou d'entrepôts. Car Mime en savait bien plus long qu'eux sur l'art du remisage, et il possédait quantité de récipients et de coffres en bois et en pierre, lesquels paraissaient fort anciens. Mais la plupart des chambres étaient vides, et dans les armureries, les haches et autres pièces d'équipement pendaient, toutes rouillées et poussiéreuses, et les étagères et les armoires étaient dégarnies, et muettes les forges. Hormis une seule. Une petite pièce donnant sur la galerie intérieure était pourvue d'un foyer qui avait un conduit de fumée commun avec celui de la grande salle. Et c'est là que Mime, à l'occasion, travaillait. Mais il ne supportait personne auprès de lui. Pour le reste de l'année, il s'abstint de toute expédition et lorsqu'il s'aventurait à l'extérieur pour la chasse ou la cueillette, ils allaient le plus souvent par petits groupes. Mais longtemps, ils eurent du mal à retrouver leur chemin et, en plus de Turin, six seulement de ces hommes acquirent une surconnaissance des lieux. Néanmoins, constatant que les plus habiles pouvaient se faufiler dans leurs repères sans l'aide de Mime, ils mirent une garde en faction de nuit et de jour, à proximité de la fissure du mur nord. Ils ne s'attendaient pas à être attaqués par le sud, et ils n'avaient pas à redouter que quiconque tentât l'escalade de l'Amonrud de ce côté-là. Mais de jour, il y avait généralement une sentinelle postée tout en haut, sur le sommet, d'où l'on pouvait surveiller les lointains. Et tout escarpé que fussent les parois menant à la cime, on pouvait l'atteindre sans trop de peine, car à l'est de l'orifice de la caverne, des marches avaient été grossièrement taillées dans le roc, aboutissant à des pentes que des hommes pouvaient gravir sans aide. Et l'année s'écoula sans mal et sans alerte. Mais tandis que les jours se rembrunissaient, l'étang se fit gris et froid, et les bouleaux se dénudèrent et de grosses pluies revinrent. Alors les hommes durent se résoudre à rester plus souvent au logis. Mais bientôt ils se lassèrent de la pénombre sous la colline et la demi-obscurité des salles, et la plupart d'entre eux auraient trouvé la vie meilleure s'ils n'avaient pas dû la partager avec Mime. Trop fréquemment, ils surgissaient d'un coin sombre ou d'une embrasure lorsqu'ils le croyaient ailleurs, et dans le voisinage de Mime, une gêne tombait sur leur discussion. Ils prirent l'habitude de s'entretenir à voix basse. Et pourtant, et les hommes ne cessèrent pas de le trouver étrange, pour Turin, il en allait tout autrement. Son amitié avec le vieux nain se resserrait et il portait plus souvent volontiers attention à ses propos. Et tout l'hiver, il demeurait assis des heures durant avec Mime, l'écoutant évoquer les traditions de son peuple et le récit de sa vie. Et Turin ne lui faisait pas reproche de ses mauvaises paroles à l'égard des Eldar. Et Mime semblait fort content et montrait pour sa part beaucoup d'amitié envers Turin. Et Turin était le seul qu'il tolérait parfois auprès de sa forge, et là ils discutaient tous deux à voix basse. Et cela ne plaisait guère aux hommes. Et Androg voyait la chose d'un œil jaloux. Le texte donné dans le Silmarillion ne livre aucune indication quant à la manière dont usa Beleg pour s'introduire à Bar Endanwedh. Mais dans la pénombre d'un crépuscule d'hiver, apparut soudain parmi eux un homme. Dans d'autres ébauches brèves, on croit comprendre que telle fut l'imprévoyance des hors-la-loi, que la nourriture vint à manquer à Bar Endanwedh pendant l'hiver et que Mime leur refusa les racines comestibles engrangées dans ses magasins. C'est pourquoi, au début de l'année, ils durent sortir de leur place forte en expédition de chasse. Beleg, qui approchait de la Monrud, aurait alors soit suivi leurs traces jusqu'à leur campement de fortune lors d'une soudaine tempête de neige, soit les aurait traqués jusqu'à Barendanwed, où ils se seraient faufilés à leur suite. À cette époque, Andro, qui cherchait les cachettes où Mime entreposait la nourriture, s'égara dans les grottes et découvrit un escalier secret qui gagnait le plat sommet de la Monrud. C'est par cet escalier que certains des hors-la-loi devaient trouver à s'échapper de Barendanwed lors de l'attaque des orques dans le Silmarillion. Et soit dans la mêlée en question, soit en une occasion ultérieure, Androg, ayant repris son arc et ses flèches, au mépris de la malédiction de Mime, fut blessé par un trait empoisonné. Mais dans une seule seulement des versions de cet événement, le trait est donné pour une flèche d'orque. Androg guérit de sa blessure par les soins de Beleg, mais il semble que son aversion et sa méfiance envers l'elfe n'en furent point mitigées. Et quant à Mime, sa haine envers Beleg s'aggrava d'autant, car par ses soins, Beleg avait dénoué la malédiction que Mime avait prononcée à l'encontre d'Androg. « Elle mordra de nouveau !» dit-il. Il vint à l'esprit de Mime que s'il mangeait lui aussi du lembas de Méliane, il retrouverait sa jeunesse et recouvrerait ses forces. Et ne pouvant se les procurer par ruse, il feignit d'être malade et supplia son ennemi de lui en donner. Mais Beleg refusa, et son refus scella la haine que lui vouait Mime, une haine d'autant plus forte que l'elfe était aimé de Turin. On peut mentionner ici que, dans le Silmarillion, lorsque Beleg sortit le lembas de son sac, Turin le refusa. Les feuilles d'argent brillaient, rouges à la lueur du feu. Et lorsque Turin vit le sceau, son regard s'assombrit. « Qu'est-ce que tu as là ? » dit-il. « Ce que peut donner de plus précieux une qui t'aime encore, » répondit Beleg. « Voici le lembas, le pain de route des Eldar, dont nul homme n'a jamais goûté. Le haume de mes pères je prends volontiers, » dit Turin, « et grand merci de t'en être chargé, mais je n'accepterai aucun présent en provenance du Doriath. Alors renvoie ton épée et tes armes, » dit Beleg. Et aussi le savoir et les bons soins qui te furent prodigués dans ta jeunesse, et laisse tes hommes mourir dans le désert pour complaire à ton humeur. Toutefois, ce pain de route me fut donné à moi et non à toi, et je puis en disposer à ma guise. N'en mange point s'il te reste au travers de la gorge, mais d'autres ici ont peut-être plus faim que toi et un orgueil moins chatouilleux. » Et Turin fut tout honteux, et pour ce qui est du lembas, vainquit son orgueil. On trouve quelques autres indications fragmentaires dans le Silmarillion concernant Dor Quartol, le pays de l'arc et du Haume, où durant un temps, Beleg et Turin, depuis leur place forte sur la Monrud, devinrent chefs d'un puissant bataillon qui opéra dans les contrées au sud du Teiglin. Turin recevait volontiers quiconque venait se joindre à lui, mais sur le conseil de Beleg, il n'admettait aucun nouveau venu en son refuge sur la Monrud, qui avait désormais pris le nom Ekad Isedrin, le campement des fidèles. Seuls en savaient le chemin ceux de l'ancienne compagnie, et personne d'autre n'y était admis. Mais d'autres campements bien gardés et des places fortifiées avaient été établis aux alentours. Dans la forêt à l'est et sur les hauteurs, et aussi vers le sud dans les marais, depuis Methedenglad, la pointe de la forêt, jusqu'à Bar Erib, à quelques lieues au sud de la Monrud. Et de tous ces camps, les hommes pouvaient apercevoir le sommet de la Monrud et en recevoir par signaux des nouvelles et des ordres. Et c'est ainsi qu'avant l'été révolu, la petite troupe de Turin s'était grossie jusqu'à former une force considérable, et le pouvoir d'Angband fut repoussé. Et la rumeur de ses victoires parvint jusqu'à Nargothrond, et beaucoup là-bas s'agitèrent, disant que si un hors-la-loi pouvait infliger de tels coups à l'ennemi, que ne pourrait faire le seigneur du Narog ? Mais Orodreth se refusa à modifier ses décisions. Il suivait en toutes choses les stratégies de Thingol, avec qui il échangeait des messagers par des voies secrètes. Et c'était un seigneur plein de sagesse, de cette sagesse qui prend en considération d'abord son propre peuple et s'inquiète de savoir combien de temps encore il pourra protéger leur vie et leurs biens de la convoitise du Nord. C'est pourquoi il n'autorisa personne à rejoindre Turin, et il lui envoya des messagers lui signifier que dans ses actes et desseins concernant la guerre que lui, Turin menait, il lui fallait se garder de poser le pied sur les terres de Nargothrond ou d'y amener les orques. Mais aux deux capitaines, il offrit toute aide autre que celle des armes, si besoin était. Et cela sur l'incitation, croit-on, de Thingol et Méliane. Il est souligné à plusieurs reprises que Beleg resta constamment opposé au vaste projet de Turin, bien qu'il n'ait cessé de le soutenir. Car il semblait à Beleg que le Homme du Dragon avait agi sur Turin différemment de ce qu'il avait souhaité. Et c'est avec désarroi qu'il pressentit ce qu'il adviendrait au cours des jours suivants. On possède des fragments de ses conversations avec Turin à ce propos. Dans un de ces fragments, ils sont assis ensemble dans la place forte de Ekad Isedrin, et Turin dit à Beleg « Pourquoi es-tu triste et songeur? Est-ce que tout ne va pas au mieux depuis que tu es revenu avec moi? Ma résolution ne s'était pas révélée la bonne ?»« Tout va bien maintenant, » dit Beleg. « Nos ennemis sont encore sous le coup de la surprise et ils ont peur. Et nous avons encore des jours heureux devant nous, pour un temps. »« Et après ?»« Après, ce sera l'hiver. Puis une autre année pour ceux qui seront encore en vie. »« Et après ?»« La fureur d'Angband. Nous avons brûlé tout juste les extrémités des doigts de la main noire, tout juste. » Elle ne se retirera pas. Mais la fureur d'Angband n'est-elle pas notre but et notre satisfaction ? Dit Turin. Que veux-tu que je fasse d'autre ? Tu le sais bien, dit Beleg. Mais de cette voix-là, tu m'as interdit de parler. Mais écoute-moi maintenant. Le seigneur d'une grande armée a d'importants besoins. Il lui faut un refuge sûr. Et il lui faut des richesses et quantité de gens dont le métier n'est pas la guerre. Avec le nombre, s'accroissent les besoins en nourriture, et ils deviennent bien plus importants que n'en peut fournir la nature sauvage. Et puis voici que s'ébruite le secret. Lamonrud est une excellente place forte pour une poignée d'hommes, et elle a des yeux et des oreilles. Mais elle se dresse solitaire, et on l'aperçoit de loin. Et point n'est besoin d'une grande armée pour l'encercler. « Cependant, je me veux capitaine de ma propre armée, » dit Turin. « Et si j'échoue, eh bien j'échouerai. » Je me dresse sur le chemin de Morgoth, et tant que je m'y tiens, il ne peut utiliser la route du sud. Pour cela seul, on me devrait à Nargothrond quelques remerciements, et même de l'aide sous forme de choses utiles. » Dans un autre bref entretien, Turin réplique aux avertissements de Beleg quant à la fragilité de son pouvoir. « Je voudrais régner sur un pays, mais non pas sur celui-ci. Ici, je désire seulement renforcer mes pouvoirs. Mon cœur se tourne vers le Dol Lomine, le pays de mes pères, et c'est là que j'irai dès que je le pourrai. » On lit aussi que Morgoth a, durant quelque temps, retiré sa main et ne s'est livré qu'à des semblants d'attaque, ceci pour qu'en remportant de faciles victoires, les rebelles acquièrent une confiance démesurée en leurs propres forces, et c'est bien ce qui arriva. Androg réapparaît dans une ébauche décrivant l'attaque de Lamonrud seulement lorsqu'il révèle à Turin l'existence d'un escalier intérieur, et il fut l'un de ceux qui gagnèrent le sommet par ce moyen. Là-haut, dit-on, il se battit avec une vaillance extrême et tomba enfin, blessé à mort par une flèche. Et ainsi s'accomplit la malédiction de Mime. Au récit, tel qu'il figure dans le Silmarillion, du périple de Beleg en quête de Turin, de sa rencontre avec Gwyndor à Tarnufuin, de la délivrance de Turin et de la mort de Beleg aux mains de Turin, il n'y a rien d'autre à ajouter. On notera ici que mon père avait l'intention de poursuivre l'histoire du Homme du Dragon du Dol Lomine jusqu'au moment du séjour de Turin à Nargothrond et même au-delà. Mais ce passage ne fut jamais incorporé au reste du récit. Dans les versions existantes, le Homme du Dragon disparaît lorsque tombe Dol Quarthol et qu'est détruite la place forte des Hors-la-Loi sur Lamonrud. Or, voici qu'on retrouve le Homme en la possession de Turin à Nargothrond. Il peut s'y trouver uniquement s'il avait été dérobé par les orques ayant capturé Turin pour l'emmener à Angband. Mais pour que le Homme soit récupéré lors du sauvetage de Turin par Beleg et Gwyndor, il aurait fallu un important développement du récit à ce point. Un fragment de texte isolé nous apprend qu'à Nargothrond, Turin se refusait à porter le Homme de peur de se faire connaître, mais qu'il s'en coiffa lors de la bataille de Tumhalad. Il est aussi dit dans le Silmarillion qu'il porta le masque de nain qu'il avait découvert dans les armureries de Nargothrond. Voici la suite de la note. Redoutant le Home, tous les ennemis l'évitaient, et c'est grâce à lui qu'il quitta indemne ce champ de mort. Il revint ainsi à Nargothrond, portant le Home du dragon. Et Glaurung, qui souhaitait le dépouiller de l'aide et de la protection que le Home lui dispensait, car lui-même le craignait, le nargua, affirmant que Turin se voulait son vassal et serviteur assurément, puisqu'il arborait la contenance de son maître sur le cimier de son Home. Mais Turin répondit « Tu mens, et tu le sais, car cette image fut façonnée en dérision de toi, et tant qu'il y aura quelqu'un pour porter ce Home, l'incertitude toujours te tourmentera, de peur que celui qui le revêt ne scelle ton destin. »
« Alors il faudra au Home un maître d'un autre nom que toi, » dit Glaurung, « car je n'ai pas peur de Turin, fils de Húrin, tout au contraire. Il n'est même pas assez hardi pour me regarder en face à découvert. »
Et de fait, telle était la terreur qu'inspirait le dragon, que Turin n'osait le regarder dans les yeux, mais avait tenu baissée la visière de son Home de manière à se protéger le visage, et durant les pourparlers, il n'avait pas levé les yeux plus haut que les pieds de Glaurung. Mais ainsi raillé dans son orgueil et sa témérité, il releva sa visière et regarda Glaurung droit dans les yeux. En un autre endroit, une note nous apprend que c'est lorsque Morwen eut vent depuis le Doriath que le Home du Dragon avait paru dans la mêlée à la bataille de Tumhalad qu'elle comprit que la rumeur était vraie, qui disait que le Mormegil n'était autre que Turin, son fils. Enfin, on croit comprendre que Turin devait porter le Home lorsqu'il tua Glaurung, et qu'il devait se moquer du dragon agonisant, faisant ainsi écho aux paroles dites par Glaurung à Nargothrond au sujet d'un maître d'un autre nom. Mais on ne trouve aucune indication sur l'éventuelle mise en œuvre de cette idée dans le fil du récit.